Ave Maria, chers auditeurs de Radio Immaculée Conception, bienvenue dans votre émission de santé, le corps à cœur. Alors c'est Camille Billard au micro, je suis accompagnée de Sœur Paulette pour animer votre émission. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un handicap particulier parce qu'il ne se voit pas, c'est le retard mental. Nous verrons qu'il y a plusieurs formes de retard mental et puis les causes. Et puis enfin, nous vous donnerons des conseils pour bien communiquer avec ces personnes. Et puis, que faire quand on a un enfant avec un retard mental ? Alors, le retard mental, on parle aussi de déficience intellectuelle, de déficience mentale. Tout ça, ça relève de la même chose, c'est-à-dire une limitation du fonctionnement intellectuel. C'est-à-dire que l'intelligence a une limite. Elle est là, hein, mais en plus ou moins grande quantité. Alors, pour pouvoir poser le diagnostic de retard intellectuel, il faut faire un test de QI qui va donc poser le quotient intellectuel. QI, quotient intellectuel. Donc ce sont les facultés pour réfléchir. Les résultats, ils permettent ensuite de classer les différents retards en quatre catégories selon leur sévérité. Alors sachez que le retard mental, il s'accompagne aussi de signes physiques. Par exemple, un manque de tonus, l'enfant est un peu mou, il a du mal à se tenir bien droit, une grande lenteur aussi, des difficultés à faire des gestes fins, etc. Alors pour revenir sur les catégories rapidement, il faut savoir que plus le quotient intellectuel est bas et plus les incapacités sont nombreuses. Le diagnostic, il peut se faire à la naissance, dans le cadre d'un syndrome génétique ou d'une souffrance néonatale, c'est-à-dire tout de suite à l'accouchement. Et sinon, le diagnostic, il peut être différé. On peut attendre un petit peu pour pouvoir bien faire la différence avec d'autres handicaps. Alors, il y a seulement la déficience intellectuelle légère qui est souvent constatée à l'entrée à l'école. Parce que avant, ça va bien, tant qu'il est à la maison, qu'il joue, tout ça, on se rend compte de pas grand-chose. Mais dès qu'il rentre à l'école et qu'on lui demande de faire des apprentissages, là, ça devient vraiment difficile. Et la déficience intellectuelle légère peut se voir à l'entrée à l'école. Donc, pour reparler de ces catégories, la déficience intellectuelle légère concerne les personnes qui vont pouvoir, en fait, mener une vie autonome. Habiter toute seule, travailler, elles ont un peu besoin d'aide pour se préparer, mais finalement, elles vont pouvoir avoir une vie autonome. Il y a là aussi la déficience intellectuelle moyenne. Là, ces personnes peuvent travailler dans un travail qui vraiment leur est adapté, où on connaît leurs difficultés et on va pouvoir adapter ce qu'on leur demande. Et puis ensuite, il y a la déficience intellectuelle sévère et profonde. Là, vraiment, on a des difficultés à parler, voire on parle pas du tout, des difficultés à comprendre. On a besoin de beaucoup d'aide pour toutes les actions de la vie quotidienne. Et puis, il y a souvent des crises d'épilepsie qui apparaissent dans ces déficiences-là, qui sont profondes et qui vont engendrer des problèmes intellectuels. Alors, la petite touche orthophonique, vraiment par rapport au langage, notamment pour ces déficiences intellectuelles sévères, il faut absolument proposer un moyen de communication à ces personnes-là qui ne peuvent pas forcément parler. C'est important de réfléchir à comment elles vont faire pour pouvoir communiquer quand même leurs besoins. J'ai faim, j'ai soif, je veux dormir, je veux être allongée, je veux sortir dehors, je veux boire, je veux m'amuser, je veux voir des amis, je veux parler à quelqu'un. Tout ça, il faut que la personne puisse le dire d'une manière ou d'une autre. En orthophonie, on va pouvoir vous aider à chercher quelle est la solution la plus adaptée. Par exemple, de montrer des images où tout ça est dessiné, ou des pictogrammes, pour pouvoir montrer ce qu'on veut. Ou alors, faire des gestes qui sont bien compris par la famille et qui vont pouvoir permettre à la personne de s'exprimer. Alors, maintenant, on pourrait se demander, mais finalement, d'où ça vient, ce handicap mental ? À cause de quoi il arrive que certaines personnes aient des difficultés intellectuelles ? eh bien, ses origines sont à trouver à différents moments. Ça peut arriver à différents moments, soit vraiment à la conception de l'enfant. Pour ce qui est des maladies génétiques, il peut y avoir des problèmes sur les chromosomes. Par exemple, la trisomie 21. À ce moment-là, c'est vraiment, vraiment à la base que se déclare le handicap mental. Ça peut être aussi pendant la grossesse. Alors là, je dis vraiment, mesdames, attention. Attention à prendre des médicaments qui sont vraiment adaptés aux femmes enceintes. Parce que certains médicaments qui ne seraient pas adaptés peuvent causer des difficultés pour le fœtus et après causer des conséquences irrémédiables sur le cerveau du bébé. Ça peut être aussi dû à un virus, à un parasite, à l'alcool, à une maladie contractée par la maman, à des carences alimentaires de la maman. Donc vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est ayez un bon suivi médical pendant votre grossesse pour pouvoir éviter toutes ces difficultés. La difficulté à la naissance peut aussi engendrer un retard mental. Par exemple, une souffrance cérébrale du bébé, une prématurité, l'enfant qui naît bien avant l'heure du moment où il devait arriver. Ça peut être aussi une pression excessive sur la tête au moment de l'accouchement. Tout ça peut causer des problèmes neurologiques qui entraînent une déficience mentale. Enfin, après la naissance, on peut aussi trouver des causes du handicap mental. Par exemple, des maladies infectieuses ou virales, métaboliques, des intoxications, un traumatisme crânien, par exemple dû à un accident de la route, une noyade, enfin plein de choses qui sont vraiment graves et qui vont toucher le cerveau. Et à ce moment-là, va pouvoir une des conséquences, ça va être le handicap mental. L'épilepsie est aussi une cause très importante du handicap mental. Voilà, après la pause musicale, Sœur Paulette reviendra sur les domaines touchés par le retard mental. Elle donnera aussi des conseils aux parents qui ont un enfant avec une déficience intellectuelle et puis des conseils à tous les auditeurs pour pouvoir communiquer le mieux possible avec une personne qui a une déficience mentale. Juste avant, nous allons écouter Patrick Richard qui chante « Vivre avec nos différences ».
L'harmonie que nous souffle l'esprit. Nous sommes tous des vagabonds, milliers de voix et de croyances. Le ciel en toit pour nos maisons, la vie pour source d'espérance. Vivre avec nos différences, comme autant de couleurs, comme autant de saveurs font chanter un printemps. Vivre avec nos différences, voir en l'autre un ami, enrichir l'harmonie que nous...
Chers auditeurs, vous êtes toujours bien sur la radio Immaculée Conception, le corps à cœur continue. Nous venons d'entendre Patrick Richard qui chantait « Vivre avec nos différences ». Les manifestations de cet handicap, c'est-à-dire la déficience intellectuelle, le retard mental. Comment ça se manifeste? La difficulté se manifeste au niveau du langage, c'est-à-dire dans la production orale, dans la compréhension, dans la lecture, l'écriture, l'autonomie, les relations interpersonnelles, l'estime de soi, la capacité à suivre la loi et les directives, ainsi que dans l'accomplissement des activités de la vie quotidienne, bref, dans tous les domaines de la vie. Donc, l'enfant qui a une déficience intellectuelle va passer les mêmes étapes de développement que les autres enfants, mais seulement les apprentissages seront plus lents et plus difficiles à acquérir. Et donc, l'enfant aura des difficultés et il faut l'aider. comment? Par plus de stimulation, parce que son éducation va besoin plus de patience aux parents et d'attention aussi. Mais je vous dis au passage qu'il n'y a aucun traitement pour la déficience intellectuelle, malheureusement, mais on peut l'aider, puisque ce n'est pas une maladie, c'est un état d'être. Et donc, les capacités qu'il faut l'aider à acquérir viendront petitement par nos aides, et beaucoup d'aides il faut. Il faut aussi signaler que les capacités sont là, comme vient de dire Camille tout à l'heure, mais ce n'est pas aussi à la hauteur. On doit reconnaître qu'il y a des potentiels. Le problème réside dans la mobilisation. Alors, que faire au niveau des parents? La première des choses, je vous dis, d'en parler. Parce qu'en parlant, il y a sûrement d'autres parents qui sont dans la même situation que vous. Et en parlant à votre entourage aussi, ça pourrait vous aider. Il faut aussi vérifier ses capacités sensorielles, voir si tout est bien. Cela peut-être peut réduire ses potentialités dans son développement. Et donc, le fait de vérifier va beaucoup aider à assurer ce qu'il faut. La deuxième chose, c'est que je demande aux parents de ne pas se culpabiliser parce que ce n'est pas leur faute, ça ne revient pas à eux. L'enfant est comme ça, il faut l'accepter, il est différent. La troisième chose, c'est de chercher de soutien, de se faire accompagner, de se faire aider, d'expliquer le problème pour être guidé. Et ensuite, il faut que vous soyez patient, que vous soyez vraiment disponible pour collaborer. Il est important de jouer donc et d'être actif, d'avoir un rôle actif. Parce que si on va vous aider et que vous n'êtes pas partie prenante, ça ne pourra pas donner parce que l'enfant vit avec vous, il est avec vous tout le temps. Et donc la personne qui est là pour vous aider ne pourra que se baser sur ce que vous lui dites et sur votre disponibilité et bien sûr sur les compétences déjà acquises par l'enfant. La dernière et la plus importante qu'on peut vous dire, c'est par rapport aux stimulations. Dès les premiers années, dès que vous constatez que votre enfant a des difficultés, parlez beaucoup avec votre bébé, bougez-le, décrivez-lui tout ce que vous voyez, tout ce qui vous passe par la tête, lisez-lui des histoires, jouez avec lui, chantez-lui des chansons. Il a besoin plus de vous que s'il était un enfant ordinaire parce qu'il a déjà des difficultés.
Je voulais ajouter que souvent, on a l'impression que l'enfant ne comprend pas et du coup, ça sert à rien de lui parler. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il comprend certaines choses, des petites choses, pas forcément tout, mais c'est pas grave. Et au contraire, c'est très très important de continuer à lui parler, de lui répondre, de répéter ce qu'on a dit, de lui dire de différentes manières, de lui dire avec des gestes, en accompagnant sa parole de gestes, en accompagnant sa parole d'objets, pour bien lui montrer de quoi il s'agit. Mais en tout cas, ne croyez pas que parce qu'il ne comprend pas, c'est pas la peine de lui parler. C'est tout l'inverse. C'est justement parce que vous allez beaucoup lui parler que petit à petit il va continuer à apprendre, à comprendre et à s'enrichir.
Et là, j'ajoute que non seulement ça c'est important, mais par exemple si vous prenez un enfant tout venant, entre parenthèses, si vous lui demandez un dessin, il va bien s'occuper des petits détails. Mais pour un enfant qui a un retard mental, c'est pas évident qu'il aille dans les petits détails. Mais ces stimulations déjà vont l'aider à se rappeler et à voir que plusieurs fois on le lui a dit. Donc il a mémorisé ça et ça va l'aider à pouvoir entreprendre quelque chose, à initier et donc à pouvoir prendre en compte ces petits détails. Alors, après ça, quelques conseils pour la communication avec un enfant qui a un problème, un retard mental.
Donc là, c'est pour tout le monde, c'est ça? C'est pas seulement pour les parents?
Non, c'est pour tout le monde. Et donc, je vous conseille de faire des phrases courtes, mais aussi des phrases concrètes. Et en plus de ça, je demanderais de lui donner le temps de comprendre pour pouvoir répondre. Parce qu'il faut qu'il ait la possibilité de bien faire le traitement et de pouvoir donner le feedback, c'est-à-dire de vraiment répondre à votre préoccupation. Et après ça, faudrait qu'il y ait un grand respect à son endroit parce qu'il n'a pas demandé à être comme ça, il est né comme ça. on doit l'accepter et ne pas le traiter comme si il était hors commun. Ne pas l'appeler par quelqu'un de stupide, de bizarre. Ses facultés sont atteintes, non. Appelez-le par son nom et comprenez qu'il a besoin de votre respect pour se valoriser parce que au début, j'avais parlé de l'estime de soi. Il y a tout ça qui vont l'aider à avoir un respect pour lui-même, à se considérer. Et vous savez que tout ça va l'aider sur le plan affectif, sur le plan psychologique, à se donner une identité. Alors, chers auditeurs, il est important d'éviter aussi de dire « souffre de » et « atteint de » et « frappé de » puisque ces thèmes manifestent une douleur constante. Même si certains individus peuvent éprouver de tels sentiments, une déficience est un état. Elle n'est pas nécessairement une source de souffrance et ne requiert pas toujours des soins médicaux. Sachez que les personnes ayant une déficience intellectuelle ont un délai de réponse. Donc cette personne, la personne avec un retard mental, est atteinte dans sa faculté de compréhension, de communication ou de déchiffrer. C'est une personne différente. Comprenez qu'il existe beaucoup de discrimination contre les personnes handicapées et que même des personnes qui travaillent avec elles ne réalisent peut-être pas qu'elles ne respectent pas toujours leur dignité en faisant des choses qu'elles n'auraient pas faites si la personne n'était pas handicapée. Alors, vous pouvez vous demander pour ces personnes, pour ces enfants qui ont une déficience intellectuelle, comment on peut les aider à se scolariser. Je vous donne quelques adresses. Il y a la Chrysalide, il y a Miwadagbe qui est à Akpakpa, il y a un autre centre, Hibiscus, de Madame Sodeji, qui reçoit les enfants de 0 à 3 ans. Mais pour les deux premiers, je crois que c'est à tout âge. Vous pouvez vous renseigner, ça pourrait beaucoup vous aider, vous soulager. Et le mieux, c'est d'en parler. Voilà, chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. Si vous voulez contacter un orthophoniste, deux solutions, notre émission interactive, la prochaine le 17 mai, ou sinon contacter Sœur Paulette au Centre Médico-Social Sainte-Élisabeth de la Trinité à Calavi, chez les sœurs. Et on vous rappelle aux pédiatres, médecins et enseignants qu'on les invite à nous contacter s'ils veulent qu'on vienne leur présenter un peu plus les troubles du langage et des apprentissages et les bienfaits de l'orthophonie. On remercie Dieudonné et le Père Alain qui étaient à la technique aujourd'hui et qui ont rendu possible cette émission. Chers amis, on se retrouve vendredi prochain à 9h30 sur Radio Immaculée Conception et d'ici là, belle semaine.